C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Justin Honnard, né en 1985, drag queen, américain, gay, politique, gauche. Œuvre, nombre de sketchs, chansons et participations à des tournées de spectacles. Personnage, Alaska Thunderfuck, dite aussi Alaska Thunderfuck 5000, mais aussi plus simplement Alaska. Dans une émission antérieure sur les travestis, mon invité, qui se travestissait, a dit « Je rêvais d'être une femme un peu conne ». Voilà, je crois, toute la différence avec les drag queens qui veulent être, qui sont, des créatures. Elles utilisent leur corps pour devenir elles aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est le contraire de banal. Une drag queen est tout ensemble une diva, une clownesse, une séductrice et une humoriste. Une drag queen, c'est le personnage et son créateur en un seul corps, cas unique, si j'accepte les créateurs de théâtre interprétant un de leurs personnages à la façon de Molière. La vision que nous avons des travestis est ancienne. Si je reste en France, sous l'Ancien Régime, on connaissait l'abbé de Choisy qui a laissé des mémoires et bien sûr le chevalier Déon. Il ne faudrait pourtant pas idéaliser une époque aristocratiquement libérale sous le rapport de ce qu'on appelle les mœurs, par opposition à une bourgeoisie qui serait devenue conventionnelle et puritaine. Sous l'Ancien Régime, on condamnait les gays à mort et c'est après la Révolution, sous Napoléon, que l'homosexualité a été décriminalisée en grande partie grâce à Cambacérès. Et c'est sous un régime fondé sur la négation de la Révolution, l'État français de Vichy, qu'elle a été recriminalisée. Travestis et drag queens sont restés très, 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 très longtemps invisibles. On a aperçu les travestis par le prisme de la comédie, en chanson, au cabaret ou dans des films, l'apothéose étant en 1973 La Cage aux Folles, cette pièce de théâtre travesti-friendly malgré elle. Les drag queens sont vraiment apparues en France il y a quelque chose comme 25 ans. Je me souviens d'un restaurant de Paris, rue Marie-Stuart, sauf erreur, tenu par des drag queens. Il était tout petit et les drag queens toutes grandes. Sous leurs perruques en pavlova et sur leurs talons en arche de pont, elles absorbaient la moitié de l'espace en servant des plats infects et c'était très amusant. Et puis, il y a eu, grâce à la télévision câblée, qui peut donc offrir autre chose que des opinionnistes hargneux, l'émission RuPaul's Drag Race, concours de drag queen, qui dure depuis maintenant 12 ans. RuPaul, drag queen elle-même, s'est rendue mondialement visible en 1994 dans un duo avec Elton John. Le concours RuPaul's Drag Race existe depuis 2009 et a répandu la popularité des drag queens dans le monde entier. Dans deux séries de l'émission, en 2013 et en 2016, on a vu apparaître une drag queen de génie, Alaska. Son créateur, Justin Honnard, a créé un personnage singulier qui pourrait avoir été dessiné par Willem dans Libération, être un personnage d'une pièce de théâtre de copie et aurait sans doute enchanté Henri de Toulouse-Lautrec. « Je prends le trash et j'en fais un trésor », a-t-elle dit lors d'une de ses émissions. Qui est Alaska, la diva des poubelles? Pour en parler dans cette deuxième partie du diptyque des créatures après Ubu, je reçois Anatole Tomzak, traducteur notamment du portrait de Dorian Gray non censuré d'Oscar Wilde dans Les Cahiers Rouges chez Grasset. Anatole Tomzak, avant de parler d'Alaska, je voudrais que nous disions quelques mots de RuPaul et de son concours. Sur quel type de chaîne du câble est-il diffusé aux États-Unis puisque c'est une émission américaine?
Oui, alors depuis 2016 sur VH1, qui est une chaîne du câble assez importante aux États-Unis, qui a eu le même destin, c'est assez intéressant, qui a eu le même destin que MTV, c'est-à-dire qui a diffusé des clips musicaux dans les années 90 et qui a dérivé progressivement vers la diffusion d'émissions de télé-réalité. Et pour l'anecdote aussi d'ailleurs, RuPaul en arrivant sur VH1 est en fait revenu sur VH1 puisque RuPaul avait un talk show dans les années 90 qui a duré 2 ans, qui s'appelait le RuPaul Show. Et qui était donc sur VH1. Et avant ça, RuPaul's Drag Race est né sur Logo, Logo TV, qui était une minuscule chaîne du câble consacrée à des programmes LGBT.
Et ce sont des chaînes d'audience mesurées, c'est pas CNN, c'est pas...
VH1, c'est quand même assez important quand même aux États-Unis, mais effectivement, non, c'est pas... Alors, Logo, c'est minuscule. VH1, c'est quand même assez important et ça veut dire quelque chose d'être sur VH1. Et quand RuPaul est arrivé sur VH1, il y a eu un effet, disons que ça a consacré et ça a symbolisé l'importance mainstream, ou en tout cas modestement mainstream, que prenait ce phénomène qui était au départ effectivement conscrit à une audience très 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 spécialisée.
Mainstream au moins, car récemment il a obtenu des récompenses.
Et un certain nombre, puisque RuPaul est récompensé depuis 2016. Il remporte chaque année l'Emmy du meilleur présentateur dans une émission de télé-réalité.
Alors, l'entrée de Alaska au début de la saison 5, en perruque blonde derrière un masque de farce et attrape en plastique qui figurait un cheval, et où elle disait d'une voix qui traînait comme une sieste en été, haï, a tout de suite révélé une drag queen très singulière. Il faut dire à Nathalie Tomzak que drag queen est un métier, et un métier sérieux qui nécessite des heures de maquillage, d'habillement et de répétition. Et c'est un métier à type, comme au cirque il y a les clowns blancs et les contre-pitres. Expliquez-moi quels sont les types, la typologie des drag queens.
Oui, absolument. La typologie, la taxinomie, on pourrait s'étendre à l'infini, mais peut-être qu'il serait intéressant de mentionner deux des catégories les plus importantes, déjà parce qu'elles sont souvent présentées en opposition, et aussi parce qu'elles, finalement, à elles deux, elles décrivent assez bien le champ d'existence possible d'une drag queen. Je mentionnerai les pageant queens et les comedy queens. Les pageant queens, en fait, ce sont les drag queens qui participent à des concours de beauté dans lesquels, en fait, elles sont jugées principalement sur leur apparence, une apparence qui doit être soignée. Et disons, pour le dire vite, que c'est une apparence aussi qui se fonde sur les codes assez classiques de la féminité. Il s'agit pas de ressembler à la marchande de journaux du coin, mais... Enfin, c'est un registre hyper glamour avec effectivement des grandes robes tapis rouges et des grandes perruques et un maquillage comme ça très soigné. Et l'autre grande catégorie qu'en général on tend à opposer, même si la réalité c'est moins évidemment la réalité est moins compartimentée, mais c'est les comedy queens. Et les comedy queens sont elles plutôt là en fait pour faire rire, pour amuser dans des numéros qui peuvent être des sketchs, des chansons parodiques, des playback aussi et ce genre de numéros. Elles sont là pour faire rire et leur apparence là peut être beaucoup plus variée, beaucoup plus clownesque, beaucoup plus trash aussi et gentiment monstrueuse, on va dire.
Alors la première robe d'Alaska dans son entrée dont je parlais à l'instant a été faite d'une nappe en plastique. On peut pas dire que son fort soit la couture. Elle a aussi porté une tenue parodiant les dessous de Marie-Antoinette qui était faite en barbe à papa rose. Et il faut dire que le mauvais goût fait partie de l'apparat de certaines de ces drag queens. C'est une forme de narquoiserie.
Disons que c'est toujours, les drag queens sont toujours sur une espèce de crête, et c'est ça qui est très intéressant, entre le sexy et le monstrueux, entre le sérieux et le parodique, et entre le glamour et le trash, et entre le bon goût et le mauvais goût. Il y a beaucoup de sérieux dans la façon dont une drag queen va s'apprêter, et il y a une phrase d'Alaska, une citation, je crois d'ailleurs qu'elle l'a volée à Dolly Parton, mais enfin ça, si c'est vrai, ça rendrait la citation d'autant plus savoureuse, et elle dit « It takes a lot of money to look this cheap, darling ».
Ah oui, c'est tout à fait Dolly Parton, vous le confirme. Bah, Dolly Parton était d'ailleurs jurée dans une des dernières émissions de RuPaul.
Absolument. Ça coûte cher d'avoir l'air aussi vulgaire, et ça résume assez bien.
Alors, dans Alaska, dans ce personnage, il y a une vraie intention de personnages, car si on va sur le site d'Alaska, qui existe, le site internet, on nous explique que Alaska est née en 1986, c'est-à-dire que ça n'est pas, elle n'a pas le même âge que son créateur.
Oui, et lui effectivement a
66, pardon, c'est pas 86,
66. Ah, 66, et qui lui est né en 85 et qui a 35 ans. Et alors elle est non seulement née en 66, mais c'est un alien qui vient de la planète Glamtron, qui s'est écrasé sur la Terre et qui aujourd'hui serait plus ou moins poursuivi par les forces de l'ordre aux États-Unis. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, d'avoir cette biographie, ça lui donne cette épaisseur de personnage. Et je dois dire que je ne sais pas quelle a été la première drag queen avec une vraie épaisseur de personnage, mais ça ne doit pas être très loin d'être Alaska ou quelque chose comme ça, parce que même un RuPaul, par exemple, RuPaul en fait porte le même nom. RuPaul, c'est déjà le nom, c'est son nom de
d'état civil,
exactement. Et même par exemple, si on pense à Divine, Divine était une créature, mais Divine n'avait pas vraiment de biographie en réalité.
Ni une des plus anciennes, qui est Lady Bunny, n'a pas non plus de biographie.
Exactement. C'est ça, exactement. Lady Bunny n'a pas non plus.
Et d'ailleurs, Lady Bunny parle d'elle-même dans ses sketchs en tant que garçon transformé, etc. Ce que ne fait jamais Alaska. Alaska est Alaska, parce qu'il y a quelqu'un d'autre.
Absolument.
Est-ce qu'elle a dit ou pas qu'il y aurait une intention d'allusion à David Bowie dans cette histoire de planète Glamtron ou pas ?
Pas à ma connaissance, mais c'est vrai que je pensais effectivement en réfléchissant au personnage d'Alaska, à Ziggy Stardust, et c'est peut-être effectivement Bowie qui, en étant involontairement drag queen, a inventé quelque chose comme la drag queen, de manière involontaire, en fait, cette façon d'être un personnage qui peut être joué que par lui-même, et qui est un personnage de théâtre qui vit en dehors du théâtre. Enfin, c'est...
Alaska, d'ailleurs, chante. Elle descend, elle a une spécialité, c'est de descendre très très bas dans les graves et monter dans les aigus en bouffonnant. Il faut dire aussi qu'elle aime bien... Quoique pas toujours porter un maquillage qui coule, une perruque de travers. Mmh. Est-ce que ça, on pourrait dire que c'est une punk queen?
Ah oui, une punk queen, une gothic clown, en fait, Alaska a ceci quand même de particulier qu'elle passe par énormément de registres. Et justement, c'est plus compliqué que ça parce qu'elle est parfois très trash, elle peut être parfois extrêmement soignée. Il y a toujours quand même un après et du soin à la façon dont elle est apprêtée. C'est justement ça qui rend intéressant même ses créations les plus trash, c'est qu'en fait il y a un vrai soin derrière. Et pardon, j'oubliais l'expression que vous disiez, punk
queen.
Oui, punk queen, c'est ça, punk queen, mais elle peut aussi être dans le pur registre du glamour hollywoodien. Elle sait le faire, elle peut être aussi une princesse Disney maléfique, comme elle peut être une gogo danseuse du futur.
Eh ben, c'est là où elle a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle est à double détente, c'est-à-dire qu'il y a un corps qui s'appelle Justin qui joue ce personnage d'Alaska, lequel personnage d'Alaska joue lui-même des personnages. Et c'est absolument ce qui est très intéressant, c'est que ça participe de quelque chose de très moderne, qui est la croyance que le moi n'est pas une chose unique.
Absolument. Et d'ailleurs, l'émission RuPaul's Drag Race entretient cette confusion et ce double niveau, puisque les participants de cette émission sont toujours appelés par leur nom de drag queen, même quand ils apparaissent en garçon. Et dans l'émission, ils n'existent que par ce nom de drag queen. Effectivement, ça, le périmètre de ces personnages drag queen est assez poreux et flou. Et même, effectivement, comme vous le disiez, ces drag queens sont amenés à jouer d'autres personnages. Effectivement, c'est...
Alors d'ailleurs, dans RuPaul's Drag Race, il existe plusieurs types d'épreuves, toujours les mêmes d'année en année, et l'une d'elles est un sketch parodique, et je voudrais que vous m'expliquiez comment Alaska était mémorable dans une parodie de Bette Davis.
Ah oui, absolument. C'est une des catégories, effectivement, de défis principales dans RuPaul's Drag Race, ce sont les défis de comédie ou dans lesquels elles doivent jouer des scénettes, des sketchs. Et en fait, le défi auquel vous faites référence consistait à parodier des films célèbres dans des suites fictives. Et en l'occurrence, Alaska était couplée avec une autre drag queen assez haute en couleur aussi d'ailleurs, qui s'appelle Alyssa Edwards. Et toutes les deux donc devaient jouer dans la suite de Whatever Happened to Baby Jane, qu'est-il arrivé à Baby Jane, le fameux film de Robert Aldrich de 1962. Et donc dans cette suite parodique, elles ont donc les deux sœurs ont survécu après la scène de la plage qui finit le film original, et elles se retrouvent dans une maison de retraite, et évidemment Alaska joue Baby Jane. Et d'ailleurs elle dit c'était évidemment que c'était moi qui devais jouer Baby Jane, parce que Baby Jane est vieille et folle, et méchante. Et donc, c'était parfait pour moi, dit Alaska. Et elles se retrouvent donc toutes les deux à finir leurs vieux jours dans cette maison de retraite. Et en fait, Baby Jane, donc jouée par Alaska, continue à torturer et à martyriser sa pauvre sœur crawfordienne qui maintenant est dans un fauteuil roulant, qui est toujours dans un fauteuil roulant, pardon, et un fauteuil roulant électrique maintenant. Voilà, c'est ça.
Alors, il faut dire que Betty Davis se parodiait elle-même d'ailleurs dans ce film. Est-ce qu'on peut dire que dans le personnage d'une drag queen, il y a une intention de caricature non seulement des autres, mais de soi-même? C'est-à-dire que ce qui serait presque paradoxal, parce que la parodie est une destruction du personnage, et en même temps, elles essaient de construire un personnage en le détruisant.
Oui, d'ailleurs, je trouve que ça se voit chez Alaska, notamment dans sa façon de parler, sa voix, et vous y faisiez référence. Alaska a une façon très particulière de parler, où justement elle parle de manière... elle parle très lentement et de façon très grave, et elle a aussi cette manière, elle a quelque chose de très américain qui est le vocal fry, qui est la friture vocale, qui consiste à racler le fond de sa gorge, situation, comme ça. Et quand Alaska parle, on a l'impression parfois effectivement que Alaska se moque de Justin, et mutuellement il y a effectivement un double mouvement comme ça. Oui.
Il faut dire que le personnage d'Alaska ne manque pas de répartie, et c'est même une femme d'esprit, pourrait-on dire, à une autre concurrente detox qui ne se cache pas d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Dans une des émissions, Alaska dit « Tu es si séduisante, malheureusement on ne peut rien faire avec toi car la plupart des parties de ton corps ont moins de 18 ans ».
Absolument.
Et alors, dans un autre jeu, et là c'est plus intéressant pour la construction des personnages et ce que sont les drag queens, Alaska parodie Mae West, et c'est quelqu'un qui est très nourri de culture populaire.
Et là aussi, faisant ça, et parodiant Mae West, Alaska renoue avec la tradition plus ancienne et classique du travesti qui avait, disons que l'emploi du travesti classique tel qu'il pouvait exister à partir des années 20, les années 30, c'était l'imitation d'une célébrité, l'imitation d'une chanteuse, l'imitation d'une actrice de cinéma, généralement diva, et Mae West faisait partie du répertoire classique des imitateurs, j'oublie là leur nom, mais des grands imitateurs américains ont imité Mae West dans les années 40, 50, 60, 70, c'était classique comme ça,
sauf que là c'est pas de l'imitation, ça participe aussi de la part parodique et sarcastique, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas exactement une imitation. Oui. Elle montre quelqu'un imitant Mae West, et elle ne le fait pas nécessairement très bien exprès, c'est ça qui est intéressant.
Et elle l'exagère, oui, elle l'exagère complètement, et justement, elle se contente pas de reprendre les citations de ses films, mais elle en fait quelque chose d'autre, vous avez raison, et ce quelque chose d'autre, c'est qu'elle la rend encore plus outrageuse. Mais finalement, la rendant plus outrageuse, elle la continue aussi quelque part, parce que Mae West était très comme ça, et Mae West était très outrageuse, et elle aimait scandaliser, et elle aimait être vulgaire. Et en fait, Alaska, dans sa parodie, la pousse encore plus là-dedans, et en un sens, la continue quelque part.
Nous allons maintenant entendre une chanson d'Alaska, Your Makeup is Terrible, ton maquillage est atroce, elle date de 2014. Now I heard this is the best motherfucking club in all the land, is that correct? Well, it better be, because I never have no stunt shows or shenanigans at the doorway. Mr. Doorman, what's that? You need my ID? This face is my ID, motherfucker. Now, I'm not the kind of bitch who's gonna go behind your back and talk shit on you. If I have an issue with you, I will bring it right to your busted face. Now, let's discuss it right now, shall we? Alright, alright. Anatole Tomzak, je parlais dans mon introduction à propos de la drag queen Alaska de Toulouse-Lautrec. Elle a un côté Valentin le Désossé. Si certaines drag queens sont très belles dans leur corps de garçon autant que dans leur corps de femme, je pense par exemple à une autre gagnante du concours, Violette Chachki, Alaska en garçon a plutôt l'air d'un élève moyen de la classe qui voudrait être un nerd, quoi, en quelque chose comme ça. Et en fille, nous l'avons vu, c'est cette espèce de Marie-Antoinette des sorties de bar avec un esprit parodique qui me fait assez penser au Pigalle des années 1890.
Oui, d'ailleurs, ça vient de là en fait. Là, il y a une continuité artistique et culturelle dans le chemin des travestis, des drag queens, qui viennent en fait au départ d'une certaine forme de spectacle qui pouvait exister en Europe à la fin du 19e siècle. Et les travestis au départ viennent de Paris, de Londres.
Oui, et d'ailleurs, florissant à Paris entre deux guerres, on sait que Cocteau adorait le travesti Barbette, par exemple. Alaska, malgré tout, comme les drag queens américaines, elles sont principalement américaines, mais peut-être pas seulement, vous nous le direz, participe aussi d'un art du spectacle qui est très anglo-saxon, le burlesque, et qui n'a pas exactement le même mot, qui n'a pas exactement le même sens qu'en français.
Non, puisqu'effectivement, le burlesque au sens anglais, américain, fait référence à un type de spectacle qui se rapprocherait de chose que nous on connaîtrait davantage sous le nom de cabaret, de musical, et qui en fait correspond à un spectacle fondé sur le mélange des numéros, le mélange des styles, où il y a en général de la musique et surtout de la parodie. Je dirais que l'élément principal du burlesque, c'est la parodie. C'est en ça d'ailleurs qui se rattache au burlesque que nous on connaît, mais disons sous une forme plus théâtrale et plus scénique, alors que notre burlesque est, enfin en tout cas une forme plus populaire, alors que notre burlesque est plus quasiment littéraire, on va dire. Et ce burlesque, effectivement, qui au départ naît dans l'Angleterre victorienne et qui ensuite se déplace aux États-Unis, consiste effectivement à des numéros parodiques. Au départ, il s'agissait de parodier des opéras, des pièces de théâtre, et les Américains y ont ajouté un élément de grivoiserie et de nudité, et ont fait une part importante aux femmes dans ce type de spectacle. Et aujourd'hui, aux États-Unis, quand on parle de burlesque, en fait, on fait maintenant référence à une certaine forme de striptease artistique, mais on fait référence à du striptease. Mais disons que au tournant du 19e, 20e siècle, c'était plus mélangé et il y avait effectivement de l'humour, de la parodie, des choses comme ça qui s'y mêlaient.
Et alors, en même temps, nous parlions de Mae West dans la première partie de l'émission. C'est aussi un métier, puisqu'après tout, c'est un métier du spectacle, qui participe d'une tradition. On voit dans le célèbre documentaire Paris is Burning, qui montre les drag queens noires principalement à New York, ces filiations de drag queens qui s'organisent en houses, en maisons, puisqu'après tout, comme les maisons royales, puisqu'après tout, elles sont des queens, des reines. Et donc, il y a ça aussi. Il y a des mères, il y a des formatrices, il y a la house of ceci, la house of cela. Mm-hmm.
Vous faisiez référence tout à l'heure à la phrase d'Alaska, « Your make-up is terrible ».« Your make-up is terrible », c'est emprunté, ça fait référence à une phrase que prononce Crystal Labeja dans un documentaire moins célèbre que Paris is Burning, mais qui s'appelle The Queen, et qui date de la fin des années 60, dans lesquelles on voit ce que c'était que les concours justement de beauté drag queen dans ces années-là, et c'était beaucoup moins flamboyant et beaucoup moins punk que déjà Paris is Burning. C'était finalement plutôt des hommes blancs de la classe moyenne, des gays un peu dans le placard, qui venaient mettre des perruques et faire comme ça des tours avec des froufrous. Et dedans, il y a Crystal Labeja, qui est ce personnage qui est exceptionnel dans ce documentaire. Et à la fin, en fait, elle a perdu et elle accuse les organisateurs du concours d'avoir truqué le concours. Et elle dit à la gagnante, mais look at her, her make-up is terrible. Et c'est cette Crystal Labeja qui a fondé la première house, c'est-à-dire la première maison de drag queen, dans laquelle il y a aussi d'ailleurs des femmes transgenres, et qui sont ces house, vous disiez ces house parce qu'effectivement ce sont des queens, mais aussi parce que ce sont aussi des familles, des maisons pour des enfants qui souvent à l'époque n'avaient pas de famille puisqu'ils étaient rejetés évidemment à cause de leur homosexualité. Et se retrouvaient protégés donc dans une maison qui était dirigée par une mère, une mother, et ces maisons organisaient effectivement des balls de manière mensuelle comme ça, qui sont des grandes fêtes qui avaient lieu aux heures d'after, c'est-à-dire à partir de 4 heures du matin, et dans lesquelles on venait défiler en portant des tenues selon des thèmes, et on était jugé par un jury. Et d'ailleurs, il y a ce système a inspiré en quelque sorte RuPaul's Drag Race avec son système de jury.
C'est d'ailleurs dans ce documentaire qu'il y a une très belle phrase, une réponse qui me revient de la drag queen qui lui dit « On me demande souvent quel était le nom d'avant, il n'y avait pas d'avant.
Bien sûr.
Alaska, puisque nous parlons d'elle, elle, je crois, ne fait partie d'aucune maison. C'est un personnage qui veut être unique.
Non, et en même temps, elle a une, ce qu'on appelle dans le jargon drag, une daughter, donc une fille, puisqu'en fait, une fille malgré elle, d'ailleurs, qu'elle n'a pas choisie, mais qui s'est rattachée à elle et qu'elle tolère en quelque sorte, qui est, donc en fait, le principe, c'est que quand on met, quand une drag queen met quelqu'un en drag queen pour la première fois, la drag queen devient la mère et la personne, et donc l'autre devient sa fille, et elle a le droit en théorie de prendre son nom de famille. Donc Alaska, vous le disiez au début, son nom de famille c'est Thunderfuck, et Alaska, donc dans la première dans la première saison qu'elle fait de RuPaul's Drag Race, elle met en drag queen un jeune Marines gay, assez joli de sa personne d'ailleurs, et elle l'appelle, donc comme Alaska s'appelle Alaska, elle l'appelle Nebraska, et c'est Nebraska Thunderfuck, et en quelque sorte on peut dire qu'il y a une maison Thunderfuck, mais enfin par ailleurs, non, elle est autonome et elle n'est pas rattachée à une famille, comme on le disait juste avant.
Alaska est aussi l'incarnation d'une notion qui n'a pas de nom en français, qui est le camp. Suzanne Sontag a écrit un essai fameux à ce sujet, les notes sur le camp dans son excellent Contre l'interprétation.
Le camp, c'est une notion compliqué à définir, bien sûr, et Suzanne Sontag en donne cette définition fameuse qui est le camp, c'est une femme qui se balade dans une robe faite de 3 millions de plumes. Et disons que le camp, c'est une manière d'être très spécifiquement propre aux homosexuels, à l'éthos homosexuel, à l'humour homosexuel. Parce que je dirais que les deux éléments principaux du camp, ce sont l'extravagance et puis l'humour, la parodie. Et donc, le camp ne prend rien au sérieux. Il y a un côté anti-sérieux dans le camp, mais également un côté extrêmement artificiel. Et disons que oui, c'est l'humour de l'artificialité, c'est la parodie de l'extravagance.
RuPaul demande à Alaska, y a-t-il un message que vous voudriez transmettre aux enfants? Et Alaska, d'un ton glacial, abat le communisme. Je me demande si, Anatole Tomczak, si les comedy queens n'ont pas contribué à libérer les femmes de l'obligation de perfection. Et je pense d'ailleurs, dans la fiction actuelle, tout à fait hétérosexuelle, à la multiplication des personnages de femmes maladroites, mal maquillées, et par exemple au personnage de Miranda dans une série de la BBC qui a très bien marché il y a quelques années. Je me demande si elles n'ont pas aussi cet impact-là.
Sans doute, puisqu'en plus les drag queens plaisent aux femmes. Les deux publics principaux des drag queens, ce sont les homosexuels et les femmes. Et vous avez sans doute raison, peut-être que les femmes dans les drag queens aiment justement cette interprétation de la féminité qui les rend plus libres par rapport à leur propre façon d'être des femmes, sans doute, absolument.
Anatole Tomczak, que vous a appris le personnage d'Alaska?
Alaska m'a appris que les dandies peuvent avoir des faux seins et des perruques, parce que je crois qu'Alaska tient aussi beaucoup de la réincarnation d'un certain type de dandy, et voilà, les dandies peuvent aussi avoir des faux ongles et des perruques.
C'était Personnage en personne, le 119e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Julien Sorel, inventé par Stendhal dans Le Rouge et le Noir.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Bernard Laniel.
De ma vie, le paradis acquis, c'était un grand jeudi.